Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. C'est une œuvre unique, inclassable, exceptionnelle, riche de plus de 2200 pages, de centaines de dessins à l'encre de Chine essentiellement. Cette aventure artistique, composée de 9 volumes, publiée à raison de 1 par an depuis 2012, est à la croisée de l'histoire, du temps, de l'espace et tisse la biographie de peintres, d'écrivains avec l'autobiographie de l'auteur, notre invité aujourd'hui. Bonjour Frédéric Pajac.
Bonjour.
Rassemblée sous le titre générique « Manifeste incertain », cette œuvre que vous publiez aux éditions Noir sur Blanc est donc un voyage où à la fois vous vous racontez et à la fois vous vous plongez, vous nous plongez dans la vie de celles et ceux qui vous accompagnent, du philosophe allemand Walter Benjamin à la poétesse russe Marina Tsvetaeva, en passant par le peintre Van Gogh ou encore l'écrivain français Paul Léoto parmi bien d'autres, jusqu'à aujourd'hui Fernando Pessoa, au cœur de ce 9e et ultime volume publié. Avant toute chose, est-ce que vous voulez bien, Frédéric Pajac, nous raconter comment est né ce projet de livre total, presque, de livre-monde, qui serait nourri de mots, d'images, de passé, d'aujourd'hui, de création, de réflexion, de soi, des autres?
Je pense qu'il est né il y a très longtemps. Il est né quand je devais avoir 17 ans, 18 ans. J'ai trouvé le titre « Manifeste incertain » à cette époque, parce que je travaillais dans les trains, dans les wagons-lits internationaux, et puis j'étais souvent en Italie, et c'était l'époque des luttes sociales et puis du terrorisme, surtout les débuts du terrorisme, c'était... il y avait le couvre-feu, il y avait tout
donc
ça.
Donc on est dans les années 70.
Ouais, c'est ce qu'on appelle les années de plomb en Italie. Donc il y avait ces idéologies qui se confrontaient, le maoïsme, le trotskisme, le fascisme, le libéralisme.
Et chacun ayant son manifeste, donc, voilà, sûr et certain de sa vérité.
Absolument. Et puis c'est donc un peu en réaction que j'ai imaginé ce titre. Et au fond, il m'a poursuivi jusqu'à il y a 10 ans, puisque j'ai commencé à faire ce manifeste il y a 10 ans. Mais j'ai longtemps cherché cette forme entre le dessin et l'écriture, qui soit pas de la bande dessinée, qui soit pas non plus de l'illustration. Je dis, j'ai cherché longtemps et j'ai trouvé cette forme à l'âge de 45 ans, en fait, avec le premier livre le second livre que j'ai fait, qui s'appelle L'immense solitude, avec Friedrich Nietzsche et Cesare Pavese, virgule orphelin sous le ciel de Turin. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé cette forme qui me convient assez bien, dans laquelle j'arrive à dire l'essentiel de ce que j'ai envie de dire. Et puis, voilà, il y a 10 ans, je suis allé voir mon éditrice, Vera Michalski, et je lui ai dit que je voulais faire un livre sans fin. Alors elle m'a tout de suite dit oui.
Quelle chance.
Mais elle m'a dit, quand je lui ai dit que je voulais faire chaque année un volume, elle m'a dit que c'était trop. Donc j'ai essayé de la convaincre, enfin je l'ai convaincue, qu'au fond j'avais le sentiment profond d'avoir un rendez-vous avec des lecteurs chaque année. Je dis souvent que, comme Walter Benjamin, on a été attendu sur cette terre, mais les livres sont attendus. J'ai attendu mes lecteurs longtemps, et puis j'ai trouvé des lecteurs donc que je crois connaître et qui sont fidèles. Et cette forme de parution annuelle, au fond, correspond à une relation que j'ai avec ces lecteurs, qui est adéquate en tout cas.
Un rendez-vous en effet, mais je voudrais revenir à la genèse de l'œuvre, Frédéric Pajac. Même s'il s'agit d'un livre dont vous rêvez depuis longtemps, d'ailleurs même en avant-propos du tout premier volume consacré à Walter Benjamin, oui. Vous écrivez que depuis l'âge de 10 ans, vous rêvez d'un livre avec des mots et des images. Mais qu'est-ce qui, quand vous commencez, quand vous allez voir votre éditrice et que vous lui dites « je veux faire un livre sans fin », qu'est-ce qu'il y a quand même dans votre tête ? Il y a sans doute un projet. Comment est-ce que vous décidez d'articuler ces grandes vies avec votre vie, par exemple ?
Pour le Manifeste incertain, en fait, je voulais faire un film un documentaire sur Walter Benjamin. Et donc j'ai relu Walter Benjamin, enfin, et j'ai lu des choses que j'avais pas lues, évidemment. On publie beaucoup Walter Benjamin aujourd'hui, mais quand j'étais plus jeune, je l'avais lu quand j'avais une vingtaine d'années, il n'y avait pas grand-chose de traduit. Et donc, j'ai voulu faire un film, mais il n'y a pas d'image de Walter Benjamin. Donc, il y a très peu de photos de lui. Et puis, au fond, je ne savais pas comment le représenter, en fait. Et je ne voulais pas faire une fiction, évidemment. Et puis, j'ai préféré faire un livre. Je trouve ça beaucoup plus simple, parce que je pouvais, au fond, accompagner mes recherches et mon enquête de dessins imaginaires, ou ils sont pas toujours imaginaires, mes dessins sont d'après des photographies des fois, mais voilà, en fait au départ c'était un film, c'est devenu un livre.
Un livre dans lequel vous vous définissez comment, comme écrivain, comme dessinateur, écrivain et dessinateur?
Alors je dis souvent que pour moi le dessin et l'écriture sont deux langages incompatibles, opposés, voire hostiles, et je les laisse dans cette hostilité, en fait, je les laisse se confronter et ne pas s'apprivoiser l'un l'autre. C'est pour ça que, si vous voulez, les dessins dans le livre sont comme une bande son dans un film musical, qui n'illustre pas le texte. Mais parfois, pour changer de point de vue, pour dérouter le lecteur, j'illustre strictement le texte.
Avec effectivement des dessins magnifiques, essentiellement à l'encre de Chine, n'est-ce pas, en noir et blanc.
Alors c'est des dessins à la plume et au pinceau, à l'encre de Chine. C'est toujours la même chose. Au fond, ça fait maintenant 20 ans que je dessine toujours au même format. Voilà, je vais devenir un mémiste, c'est-à-dire quelqu'un qui fait toujours la même chose.
Pas tout à fait quand même, mais c'est vrai qu'il y a un style Pajac. D'ailleurs, vous avez été exposé dans la galerie de Martine Gossiot à Paris.
Oui.
Parce que vraiment, vos dessins sont des peintures, sont des tableaux, à la fois des portraits très puissants. On le voit là sur ce dernier volume avec Pessoa, ou des plans de nature, de grande nature, de montagne, enfin, exceptionnel. Alors donc voilà, Walter Benjamin naît presque d'un malentendu. À défaut de faire un documentaire, vous décidez de faire ce premier volume du Manifeste incertain. Et puis, ont suivi d'autres destins que vous évoquez, que vous sollicitez. Et de ces personnes, vous dites que vous ne les avez pas choisies, mais qu'elles se sont imposées à vous. Et je me demandais comment, d'ailleurs, étaient-elles venues à vous, parce que ce sont des ratés magnifiques, ça c'est vous qui l'écrivez dans votre texte, que Benjamin, Van Gogh, Emily Dickinson, Kafka et Robert Walser, entre autres, ont été ignorés de leur vivant et reconnus après leur mort. C'est ça le point commun qui les relie tous dans ces volumes et qui vous intéresse, vous, Frédéric Pajac?
Alors, c'est pas un préalable. C'est venu tout seul. J'ai parlé aussi d'auteurs qui ont été reconnus de leur vivant, comme Léoto, qui était quand même assez connu, Renan, qui était très célèbre, Beckett, qui n'est pas resté longtemps ignoré. Mais c'est vrai que les grandes figures dont je parle, c'est un miracle, en fait, si on les connaît aujourd'hui. Par exemple, comme pour Kafka, mais Emily Dickinson voulait brûler toute sa poésie. Et sa sœur a refusé, un peu comme Max Brod a refusé de brûler les manuscrits de Kafka. Et puis, Van Gogh, ben, on sait que c'est son frère qui l'a conservé et qui s'est occupé enfin, brièvement, puisqu'il est mort un an après la mort de Vincent. Mais j'ai pas choisi. Je dis souvent, ce sont ces auteurs qui m'ont choisi. Si vous voulez, je peux préciser les choses dans le sens où je crois quand on lit un livre, quel qu'il soit, au fond, ce livre devait survenir. Et moi, je constate toujours que si par exemple j'écris sur Pessoa, les livres viennent tout seuls à moi. C'est-à-dire que je vais dans une librairie et voilà, y a les livres sont là, ou dans une bibliothèque, les livres sont là. Et en fait, les livres, c'est à la fois des fenêtres sur quelqu'un d'autre, sur des paysages, sur une autre âme. Et c'est un miroir, toujours, parce qu'au fond, souvent les préoccupations qu'il y a dans un livre, les sentiments, si vous voulez, que ce soit par exemple la solitude, le chagrin d'amour, tous ces grands sentiments, on les retrouve parce qu'on les a, on les porte en soi, et donc on se plonge dans quelque chose dans lequel on est déjà plongé.
Les auteurs, les livres viennent à vous, et ensuite vous, Frédéric Pajac, vous allez à eux, vous vous jetez entièrement d'ailleurs vers eux, puisque vous lisez tout, vous regardez tout, vous analysez tout, ou en tout cas vous ressentez tout, et vous allez même d'ailleurs, je crois, sur les lieux où ils ont vécu. Ça peut être la Russie pour Marina Tsvetaeva, ça peut être l'Allemagne, ça peut être l'Autriche, jusqu'en Chine.
Alors j'ai beaucoup voyagé pour les manifestes incertains. Je suis allé en Amérique du Sud, je suis allé en Patagonie, je suis allé au Brésil, je suis allé
sur les traces de qui à chaque
en
fois
en Russie, donc en Crimée, en Chine, effectivement. C'est pas forcément sur les traces de quelqu'un. C'est souvent sur les traces de quelqu'un, mais c'est aussi pour voyager, pour écrire et dessiner des paysages que je ne connais pas. Par exemple, en Russie, c'était très important que je puisse voir la steppe et voir aussi la Crimée où Marina Tsvetaeva a connu son premier amour, enfin son grand amour même, Sergueï Efron. Et puis j'avais besoin de voir ce bord de mer presque vierge, en fait, qui est resté vraiment d'une pureté extraordinaire. Et puis sans construction, sans tout ça, ce qui a échappé au progrès, c'est assez étonnant. Mais j'avais besoin aussi de voir la poutre dans ce petit village de Yelabouga, perdu dans la Russie. J'avais besoin de voir la poutre sur laquelle Marina Tsvetaeva a accroché la corde avec laquelle elle s'est pendue. Et j'avais besoin aussi de voir d'autres gens se recueillir dans cette petite maison de Yelabouga, parce que j'avais besoin de voir, au fond, ce qu'on appelle le peuple russe, l'âme russe, les gens ordinaires qui connaissent tous Marina Tsvetaeva, pratiquement. Et il y a une sorte de ferveur que nous ne connaissons pas en Occident. Nous n'avons pas ce rapport à la poésie aussi intime, aussi évident. Et en voyageant, voilà, donc j'ai aussi décrit cet amour de la poésie du peuple russe. J'ai rencontré énormément de gens. Et c'était vraiment une exploration. C'est tout à fait pour moi nouvelle, parce que je ne connaissais pas ce pays.
Autre exploration, autre figure. Donc aujourd'hui, l'écrivain portugais Fernando Pessoa, qui est la figure centrale de votre nouvel opus, Frédéric Pajac, célèbre entre autres pour son texte Le Livre de l'Intranquillité, dont nous entendons tout de suite un extrait ici, dans une lecture de Georges Vernat.
28 septembre 1932. Personne encore n'a défini, dans un langage pouvant être compris de ceux-là même qui n'en ont jamais fait l'expérience, ce qu'est l'ennui. Ce que certains appellent l'ennui n'est que le simple fait de s'ennuyer, ou bien ce n'est qu'une sorte de malaise, ou bien encore, il s'agit de lassitude. Mais l'ennui, s'il participe en effet de la lassitude, du malaise ou du fait de s'ennuyer, participe de tout cela comme l'eau participe de l'hydrogène et de l'oxygène dont elle se compose. Elle les inclut, sans toutefois leur être semblable. Si la plupart donnent ainsi à l'ennui un sens restreint et incomplet, d'autres lui prêtent une signification qui, d'une certaine façon, le transcende. C'est le cas lorsqu'on appelle ennui ce dégoût intime et tout spirituel qu'inspire le caractère changeant et incertain du monde. Ce qui nous fait bâiller quand on s'ennuie, ce qui nous fait changer de position et qui est le malaise, ce qui nous empêche de bouger et qui est la fatigue, rien de tout cela n'est vraiment l'ennui. Mais ce n'est pas non plus le sens profond de la vacuité de toute chose, grâce auquel se libère l'aspiration frustrée, se relève le désir déçu et se forme dans l'âme le germe d'où naîtra le mystique ou le saint. L'ennui est bien le dégoût du monde, le malaise de se sentir vivre, la fatigue d'avoir déjà vécu. L'ennui est bien, réellement, la sensation charnelle de la vacuité surabondante des choses. Mais plus que tout cela, l'ennui, c'est aussi le dégoût d'autres mondes, qu'ils existent ou non. le malaise de devoir vivre même en étant un autre, même d'une autre manière, même dans un autre monde. La lassitude non pas seulement d'hier et d'aujourd'hui, mais encore de demain et de l'éternité même, si elle existe. Ou du néant, si c'est lui, l'éternité.
Le livre de l'intranquillité, retraduit d'ailleurs récemment par le livre de l'inquiétude de Fernando Pessoa, que nous évoquons aujourd'hui dans Littérature sans frontières sur RFI avec notre invité, l'écrivain et dessinateur Frédéric Pajac, qui clôt sa série du Manifeste incertain aux éditions Noir sur Blanc avec ce 9e volume qui, comme les précédents, articule biographie et autobiographie, voyage dans le temps et dans l'espace. Et donc ici, le portugais, Fernando Pessoa, personnage ô combien étonnant et romanesque, né en 1888, exilé enfant en Afrique du Sud où il grandit avec sa mère et beau-père, de retour à Lisbonne à 17 ans et qui deviendra un graphomane hors du commun puisque non seulement il s'est inventé plus de 70 hétéronymes, c'est-à-dire des noms d'emprunts sous lesquels il écrivait, mais ses œuvres sont restées pour la plupart inédites puisqu'à sa mort en 1935, on découvre une malle contenant plus de 30 000 documents. Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans ce destin de Pessoa, Frédéric Pajac?
Bien, c'est un peu la banalité du personnage, c'est-à-dire cette vie d'employé, presque d'employé modèle, cette vie ordinaire, un peu comme Kafka. Et au fond, c'est ces gens qui vivent deux vies, c'est-à-dire une vie réelle, une vie tout à fait banale, tout à fait ennuyeuse, et puis qui ont cette vie profonde, cette vie cachée, cette vie parce qu'il a il a même pas de vie amoureuse, il a pas de vie il a quelques amis mais ce ne sont pas des grandes amitiés. Tout ça pour dire que ce qui m'a intéressé chez Pessoa, entre autres, c'est évidemment cette double vie, cette vie cachée, cette écriture secrète, et puis évidemment les hétéronymes, c'est-à-dire cette capacité à se multiplier, à se créer des identités, et plus que des identités, à se créer en créateur au pluriel. Et on connaît les principaux, Alvaro de Campos, Ricardo Reis, et puis ça c'est vraiment les poètes principaux sur lesquels il a écrit des livres entiers.
Qu'est-ce qui vous intéresse aussi en racontant la vie de Pessoa? Parce que tout ce que je dis ici, c'est aussi ce que vous écrivez. On sent une fidélité à la chronologie, une fidélité au lieu, aux personnes qu'il a fréquentées. Qu'est-ce que ça vous apporte et en quoi ça peut éclairer l'œuvre, selon vous, la biographie d'un artiste?
Moi, je considère que ce qui m'intéresse ou me passionne chez un auteur, c'est l'étrangeté. C'est-à-dire que plus un auteur m'est étranger, plus il m'intéresse. Si un auteur devait me ressembler ou si je devais lui ressembler, je crois que je le dédaigne. Donc, cette étrangeté, je crois que les 9 volumes du manifeste sont aussi un manifeste de l'étrangeté. Et j'aime bien la chronologie parce que je trouve que ça permet d'aborder le plus précisément possible l'enfance. Pour moi, l'enfance est toujours vraiment constitutive de l'être adulte, quoi. On peut pas oublier l'enfance.
Je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Frédéric Pajac, que vous étiez intéressé par l'étrangeté aussi de ces artistes. Et en même temps, particulièrement dans ce volume, évidemment, Pessoa, on sent une grande solitude, voire une folie. Donc ce sont des sentiments qui vous sont étrangers?
Non, pas ces sentiments-là. Mais oui, mais je dis souvent que les héros les véritables héros de mes livres, ce sont les sentiments. D'ailleurs, j'ai commencé par un livre qui s'appelle « L'immense solitude », après « Le chagrin d'amour », après « Mélancolie ». Donc, c'est vrai que la solitude, quand j'ai écrit sur Nietzsche, la solitude de Nietzsche me touchait profondément, parce que j'ai été très seul dans ma vie. Je le suis moins, mais j'ai été très seul. J'ai été très mélancolique. J'ai connu des grands chagrins d'amour. Et je dirais que là, le sentiment principal, il est dans le titre. C'est-à-dire, c'est l'incertitude. Et pour moi, c'est un sentiment très ambivalent. On peut souffrir de l'incertitude. Et on peut aussi s'en délecter.
Parallèlement à la vie de Pessoa, ici, vous revenez sur des épisodes de la vôtre, dont un voyage en Algérie et une traversée du désert assez éprouvante, dans les années 1975 environ. Pourquoi est-ce que cet épisode-là, en particulier, en regard de Pessoa ?
En fait, le livre est conçu, je peux pas dire le 9e volume, parce que ça veut rien dire pour moi. Pour moi, c'est un seul et même livre, les 9 volumes. Mais, puisqu'il existe physiquement comme un 9e volume, c'était une manière de revenir sur ma jeunesse, aussi sur le paysage, c'est-à-dire j'avais jamais dessiné le désert, donc comment dessiner le désert ? Alors, j'avais pas envie de dessiner des dunes, j'avais plutôt envie de dessiner le hogar, dans lequel j'ai beaucoup voyagé, et c'est-à-dire la montagne, en fait, le minéral du désert. Et puis, je voulais me suicider, moi. Je voulais aller dans le désert pour me suicider. Et au fond, j'ai rencontré presque le bonheur dans le désert. Et surtout, en Afrique noire, avec des enfants. Quand je dessinais dans la rue, il y avait beaucoup des attroupements d'enfants. Et ouais, j'en étais très pauvre. J'étais à Agadez, au nord du Niger. Et puis, de voir ces enfants rire, se contenter d'aimer la vie, aimer être dans cette vitalité extraordinaire, ça m'a absolument guéri de toute idée suicidaire pour toujours. Mais j'avais envie de raconter ça. J'avais envie de parler de cette solitude aussi dans le désert, parce que j'étais très seul. J'ai voyagé seul, j'ai voyagé en autostop, sans argent, sans rien. C'est une période aussi, on pouvait. C'est aussi une manière de parler du temps présent où on peut plus voyager de façon insouciante. Aujourd'hui, récemment, il y a des Français qui sont morts au Niger. J'ai beaucoup pensé à eux parce que, en plus, c'est toujours des morts assez cruelles et arbitraires. Et aujourd'hui, bon, moi, j'ai des petits-enfants. Je me dis, mais dans quel monde ils sont ? Donc, ils pourront peut-être jamais voir le Sahara tranquillement. Il y aura toujours un risque dans le Sahara. Ce sera toujours... ou alors, il faut être très encadré, mais on ne pourra plus voyager de façon... libre, et même les gens ne sont plus, les gens qui étaient tellement hospitaliers ont changé. Je dis pas qu'ils sont plus hospitaliers, mais au fond, il y a toujours, le danger est là, et la menace est toujours là. Le monde a vraiment radicalement changé.
Et donc, entrelacé de ces chapitres consacrés à Pessoa, vos voyages à vous, un autre voyage aux États-Unis, dans la région de San Francisco, j'aimerais comprendre, est-ce que ce sont des voyages qui font écho à quelque chose au regard de la vie de Pessoa, ou c'est juste arbitraire, c'est juste une composition personnelle ?
Alors oui, j'ai oublié de dire que en fait, ce livre, je l'ai un peu conçu comme un labyrinthe. Et dans ce labyrinthe, j'ai essayé de ne m'interdire aucune forme. C'est-à-dire, je peux même écrire certains textes en mirliton, en alexandrin, ça me gêne pas de pouvoir passer de la fiction à ce qu'on appelle l'autofiction, j'aime pas tellement ce terme, à la biographie, à l'autobiographie, à des formes de nouvelles, des formes de... J'essaie de m'interdire aucune, même une lettre au guide Michelin.
C'est vrai. Où l'auteur se plaint énormément.
Voilà, comme toujours dans mes livres, je me plains toujours de la mauvaise cuisine. Et ça, ça revient toujours, ça c'est sûr. Mais voilà, j'essaie d'utiliser... Si vous voulez, si j'écrivais un roman, je me sentirais assez prisonnier d'un personnage, de la psychologie, des choses comme ça. Tandis que moi, j'ai même pas besoin de faire de description, puisqu'au fond, le dessin apporte une autre description. Au fond, j'essaye de... Voilà, j'essaie de construire un labyrinthe et j'essaie surtout de faire en sorte qu'il y ait une sortie de ce labyrinthe.
Oui, vous ne voulez pas perdre le lecteur quand même.
Non.
Vous êtes un petit peu comme le lapin d'Alice au Pays des Merveilles, alors il faut vous courir après, il faut vous suivre dans les différents tunnels, les différents
méandres. Oui, c'est un peu ça, oui, tout à fait.
Et en même temps, il y a des échos quand même. Par exemple, au chapitre où vous racontez la mort de Pessoa, juste après, il y a un très bref chapitre où là, vous évoquez la mort de votre frère. Donc, ça veut dire qu'entre votre histoire, son histoire et les histoires en général, il y a des échos, il y a des liens, des passerelles.
Ben, il y en a toujours, mais ils viennent tout seuls. Par exemple, oui, vous parlez, moi j'ai perdu mon frère cette année, et puis j'avais écrit déjà tout le passage sur Pessoa, et Pessoa a perdu ses frères et sœurs, enfin plusieurs de ses sœurs, en bas âge, et au fond, il était presque indifférent à cette mort. C'est quelque chose de presque normal pour lui. C'est vrai que pendant longtemps, les femmes perdaient leurs enfants très jeunes, et aujourd'hui, on a plus le même rapport à la mort. Quand on perd un frère ou une sœur, on est dévasté, je pense. Donc il y a une sorte de contraste entre cette absence de sentiments chez Pessoa et puis le trop plein de sentiments dans ma vie.
Donc on en arrive à ce 9e volume, censé être le dernier. Pourquoi 9 d'ailleurs ?
Et pas tout 10, à fait 11, arbitraire.
12. Arbitraire.
En fait, je voulais faire un livre sans fin, puis à un moment donné, j'ai quelqu'un m'a demandé, mais combien il y aura de volumes ? J'ai dit, il y en aura 9.
Et donc pas 10.
Non.
Merci beaucoup, Frédéric Pajac.
Merci à vous.
Et je rappelle que donc l'ensemble du manifeste Incertain, composé de 9 volumes, a été publié aux éditions Noir sur Blanc, que chacun des volumes a été récompensé ci et là par le prix Médicis CC, par le prix Suisse de la littérature, par le prix Goncourt de la biographie, et que d'autres de vos livres sont aussi à lire aux éditions Noir sur Blanc. Et puis pour en savoir peut-être un peu plus encore sur vous, un certain Frédéric Pajac, un livre, un dialogue avec des dessins pour ceux qui veulent continuer l'aventure. Et puis on se retrouve pour un autre projet alors.
Oui,
merci
avec plaisir.
Beaucoup.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire. Thank you.